pour les 25 ans de PHP, les 20 ans de la FUP, Forum PHP qui a lieu le 22 et 23 octobre à Paris, sauf petite grippe par le retour, et l'arrivée de PHP 8, nous voulions faire une émission exhaustive sur le langage PHP. Le sujet étant éléphantesque, nous le traiterons en deux parties et vous écoutez actuellement la première. Nos invités pour en parler sont Stéphanie Trumtel, développeur senior en PHP, modératrice de la FUP Toulouse, trolleuse patentée en télétravail sur Slack, et Franck Aliment, responsable de l'agence Open Studio à Toulouse, membre de la FUP Toulouse et motard sur Mac+. Stéphanie, quelle fut ta première expérience de programmation ?
C'était en basique, il y a très 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 longtemps.
On y revient ?
Et oui, puisqu'à l'époque c'était enseigné en primaire à l'école, d'une part.
D'accord.
Une idée géniale. Et accessoirement, on avait un mot 5 à la maison, et avant de pouvoir jouer, il fallait déjà coder.
Oui, au moins pour programmer.
Il fallait exactement recopier les programmes, débugger les programmes avant de pouvoir jouer. C'était presque plus amusant que de jouer, en fait.
Et on a parlé d'ailleurs du Thomson et la programmation de jeux sur Thomson, d'ailleurs. Franck, quelle a été ta première expérience de programmation ?
Eh ben, c'était du basique aussi, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose d'autre.
Et c'était sur du logo sur Thomson, hein,
si oui, oui. Alors moi, je suis passé tout de suite sur des machines vraiment sérieuses, c'est-à-dire des Commodore. Et le premier, c'était un Commodore VIC 20. C'était même pas un Commodore 64, c'était un Commodore VIC 20.
Ouais.
Voilà. Donc une toute petite machine, mais je me suis beaucoup amusé dessus.
4 kilos de RAM, si je me souviens
bien. 3,5 kilos.
Ouais.
Et j'avais acheté une extension. Non, il y avait 1 kilo de RAM et tu pouvais acheter une extension 3,5 kilos. Voilà. Voilà, waouh!
Quelle puissance!
Oui, alors à l'époque, c'était une machine intéressante parce qu'elle elle te permettait d'afficher des choses, des caractères en 16 couleurs. Et ça, c'était pas donné à toutes les machines.
Oui, voilà. C'est vrai. Stéphanie, comment tu es venue au langage PHP?
J'étais en 2001 dans une boîte comme bioinformaticienne. Donc, je faisais traditionnellement du C, parce que c'était le langage un peu dédié à l'époque, et du Perl. comme c'était pas super pratique de manipuler les chaînes de caractères en C, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Et puis que surtout, j'avais besoin de mettre à disposition mes outils aux chercheurs de la société qui étaient sur des machines diverses et variées. Il y avait des Mac, il y avait des PC, il y avait des Linux. Les afficher dans un navigateur web à l'époque, c'était très pratique. Et donc, pour faire tout ça, en le maintenant moi-même, c'était en interne. Le PHP avait la même syntaxe que le C, donc, puisqu'il est emprunté toutes les syntaxes. C'était très très bien. Et puis, ça permettait très rapidement d'avoir des résultats. En fait, donc, du coup, j'ai utilisé le PHP pour faire du calcul scientifique.
Wow.
Ce qui est assez inhabituel. Mais ça marche très bien.
Et toi, Franck, tes débuts en PHP ?
Alors, mon contact avec PHP, ça débute avec Java, en fait, parce que...
Mon Dieu !
Oui. De 98 jusqu'à 2010, j'ai fait du Java tout le temps. Et alors, ce que je voulais faire surtout, c'est avoir mon site web à moi et faire des pages dynamiques. Et je me dis, je vais faire ça en Java. Ben non. Parce que trouver un hébergeur Java dans les années 90-2000, c'est juste impossible.
Comme j'ai dit en intro, tout le monde faisait du PHP.
Mais tu avais raison, Xavier, c'est exactement ça. C'est pas que c'était gratuit, c'était juste que c'était là.
C'était là, ouais, exactement. Voilà. Il n'y a pas tellement d'alternatives hein, pour faire du web chez soi
Perle.
Sans sortir.
Oui, voilà. Tu avais Perle en alternative.
Ah, ouais, enfin non.
Je suis allé chercher. Hein,
chez qui, monsieur ?
Chez Free, justement.
Ouais,
chez Online.
Voilà, ok.
Enfin, tu l'as fait une fois, tu le fais pas deux.
Ah non.
Ben, oui, Perl, alors je l'ai utilisé dans le business, enfin dans le boulot, Perl, oui, bien sûr, Perl, TCLTK, tout ce genre de langage. Bon, quand on n'avait pas le choix, on le prenait, mais on utilisait ça. Mais voilà, donc c'était Java. Je ne pouvais pas faire de l'hébergement Java parce que ça n'existait pas. Et donc, bah, comme je voulais absolument avoir une présence dynamique sur le web, je me suis mis au PHP. Et puis, j'ai lancé un stagiaire dessus sur un projet de documentation d'un gros projet qui était en Java. Mmh. C'était en PHP 3 à l'époque, je me souviens bien du point PHP 3. Il en a sué, le pauvre garçon, Benoît. Benoît, si tu m'écoutes, tu étais un bon stagiaire. Et tu as beaucoup appris aussi. Oui, parce qu'à l'époque, ça avait beau être du PHP 3, ça avait beau avoir des limitations. C'était quand même, on l'a quand même fait travailler comme tous les autres personnes, à faire les choses proprement. Voilà. Mmh. Donc ça veut bien dire que même à l'époque du PHP 3, tu pouvais faire des choses propres, ouais, pourvu que tu prennes la peine de le faire. Voilà. Mmh. Ça, c'est vrai.
D'où vient le langage PHP ? Et d'ailleurs, la signification de PHP lui-même, puisque c'est une abréviation.
C'est une abréviation qui veut dire PHP, pré-hypertexte processeur.
C'est récursif, ouais.
Oui, comme... Bah.
comme quelques-unes. Ouais. Ouais. Comme GNU.
C'est ça.
Et donc, qui est derrière ? Parlez-nous un petit peu de Rasmus.
C'est Rasmus.
Rasmus qui a développé un module en C pour faire son site perso dans les années 90.
Il voulait faire un peu plus que du server side include, je crois.
En fait, d'ailleurs, il codait déjà des outils sous Unix et trucs comme ça. Il avait déjà une petite expérience quand même sur la programmation avant.
Bah, il était développeur C, donc...
Il avait fatalement une expérience.
Oui, il n'a pas inventé un langage comme ça tout seul. Enfin, non, mais il s'est matin, dit comme...
Oui, c'est ça. Il s'est dit comme plein de gens, j'ai pas les bons outils pour faire ce que j'ai envie de faire, je vais fabriquer un outil.
C'est ce qu'on faisait à l'époque, de toute façon.
Mais c'est ce qu'on fait encore, toujours. Parce qu'on a toujours besoin d'un outil custom.
Oui, voilà. Ouais. Ceux qui sont là, ils sont jamais assez bien.
Oui, ils vont presque.
C'est ça.
Par curiosité, vous avez regardé la syntaxe du premier PHP, comment on faisait les inclusions ?
Elle est horrible. Il y a des espèces de balises dans tous les sens.
Après, il
PHP,
fallait...
FX, ça s'appelait.
Ça. Mais bon, après, voilà, c'était... Qu'est-ce que c'était l'existence ? C'est ça qu'il faut voir. Qu'est-ce qu'on avait comme référence ?
C'est ça. Il fallait avoir fait des CGI en perles pour savoir ce que c'était.
Ouais.
Ça, c'était quelque chose.
C'est un truc de barbu, ça. C'est clair.
Quelle est la part de marché actuelle d'usage du PHP ? On dit que c'est le langage le plus utilisé pour faire des sites web. Hein. Alors, c'est toujours le cas où finalement Node.js a pris...
Non.
Node quoi ?
Hein ? J'ai vu aujourd'hui, en 2019, c'était 80% quand même. Dont 50% en PHP 7, ce qui veut dire qu'il y a 50% qui est...
Oui, mais alors, bon, c'est les sources divergent, comme dit...
C'est clair, ça dépend, c'est comme la police ou les manifestants, ça dépend qui c'est.
Voilà. Le vecteur de PHP, le vecteur principal de PHP, c'est quand même WordPress, on peut le dire.
Oui.
Voilà. Donc, le fait de dire
glorieux... On a déjà parlé sans les insulter, donc...
C'est très bien, WordPress, ça permet de faire plein de trucs. Ça permet à ma frangine de faire son site web et je remercie WordPress.
Ça permet à plein de personnes d'avoir une présence sur Internet qu'elles ne pourraient pas avoir autrement. Il n'y a pas d'alternative.
Ça me permet de faire des botnets aussi pour miner la crypto-monnaie.
Oui, mais c'est comme tout. À partir du moment où tu abandonnes ton WordPress, il va devenir une vraie passoire. Alors que si tu le maintiens un jour, ce que ne font pas les gens, parce que les gens entre guillemets qui ne s'occupent pas vraiment de leur site web ou qui ne réalisent même pas le potentiel de nuisance
que ça peut avoir.
C'est normal, hein. WordPress, alors il faut quand même dire, juste pour faire une parenthèse sur WordPress qui est écrit en PHP, pour rester dans le sujet, il se met à jour tout seul maintenant quasiment, donc sur les dernières versions.
C'est une fonction que .clear avait déjà depuis 10 ans.
Oui, mais bon, voilà. On n'est pas là pour mesurer
des appendices, tout à fait.
Mais pour en revenir au sujet, WordPress, c'est le vecteur de PHP. Voilà, il y a du PHP partout parce qu'il y a du WordPress partout.
Ouais. Exactement.
Mais après, le fait est que 80%, je ne sais pas d'où sortent tes sources. C'est quoi tes sources ?
Je ne sais plus.
On les donnera, on a mis le lien justement sur... puisque j'avais cité ce chiffre effectivement, et hop.
Moi j'avais plus... c'était plus autour de 50%, quelque chose comme ça. Il y a une surveille tous les ans qui donne la part de marché des langages.
W3Techs.com, voilà, qui indiquait cette part de marché-là.
Je retrouve à mes sources, mais bon, je pense qu'elles sont variées et donc c'est difficile de faire une certitude.
C'est ouais.
On coupe la poire en deux, on se fait.
On va dire combien alors
Ça fait 65%.
65%.
Grosso modo.
C'est sûr que si tu prends pas WordPress, 80%.
Ouais.
Oui, mais c'est la même. C'est
la même source. Selon les manifestants, c'est bien 80%.
Enfin, okay. De ce qui est déclaré, puisqu'on ne le voit pas forcément.
Oui, on le voit pas forcément après. On ne le déclare pas forcément.
Alors, le langage PHP est géré par The PHP Group. Qu'est-ce que c'est ? Une fondation, une entreprise ou une coterie secrète dont le but est de prendre le contrôle de l'humanité ?
Réponse D.
C'est un groupe d'indépendants divers et variés qui sont impliqués dans le développement du langage. Il y a les anciens développeurs, donc Rasmus toujours, Zuraski et les deux développeurs de Zend, j'ai oublié le nom, et plus d'autres, ils sont une dizaine, ceux qui développent le langage, qui maintiennent le site php.net, qui est la référence toujours. Et oui, ils sont affiliés à rien du tout. Enfin, ils travaillent à côté, mais...
Ok, et donc il n'y a pas de financement spécifique pour cette fondation
Bah, ils sont soutenus par les entreprises qui utilisent le PHP, bien sûr, puisqu'ils ont intérêt à ce que ça continue, mais après, j'ai vu que... Ouais, non, ils sont... Je sais pas comment ils font. Non, il y a pas de... Ils sont pas affiliés à... C'est entièrement libre. Ils sont affiliés à rien.
D'accord. Alors, pourquoi la mascotte de PHP, qui d'ailleurs, comme la plupart des projets open source, c'est un animal, pourquoi c'est un éléphant ? Parce que le code était bourré ou...
C'est un éléphant, ça écrase tout.
Ça doit être pour une assonance avec le PH, éléphant, PH.
C'est parce que le logo PHP ressemble de loin dans le dos et la nuit à un éléphant, paraît-il.
C'est de loin la nuit.
D'accord. C'est l'explication officielle.
Okay.
C'est l'explication officielle, ça ressemble à un éléphant avec le P qui fait la trompe et... Et les pattes du H. Et...
et on parlait de The PHP Group, donc c'est juste une fondation, il n'y a pas différentes divisions régionales comme on l'a dans d'autres langages ou d'autres gros projets open source. C'est vraiment... Qui peut y rentrer déjà dans The PHP Group ?
Il faut développer en C le langage PHP.
D'accord.
Et après, pour les plus externes, on va dire, enfin, la core team qui développe, ils sont une dizaine. Et les plus externes, il faut avoir une adresse email sur php.net.
Point. Et voilà.
Et voilà. Et pour ça, il faut donc participer au langage, donc soit en développement, soit en participant à un framework majeur, soit en traduisant de la doc pour PHP, ou en écrivant de la doc pour PHP. Et a priori, si on remplit une de ces conditions, on peut avoir une adresse.
C'est vrai que la doc est disponible dans différentes langues, comme dans la plupart d'ailleurs des langages, je veux dire, majeurs, sur le site de PHP. PHP, la version française, est pas trop mal faite, même si des fois on trouve des différences par rapport à la version anglophone. Combien il y a de contributeurs justement pour la doc française ?
Actif actuellement.
J'en sais rien, j'ai traduit quelques pages moi. Combien de contributeurs, je sais pas. Il y a un système de soumission des traductions qui sont après validées par la core team avant d'être acceptées. Donc théoriquement, demain si t'as envie, tu peux aller traduire des pages et être contributeur. C'est très instructif, hein, mais c'est vrai que les traductions sont assez bizarres.
Tu devrais y aller.
J'ai essayé.
C'est d'ailleurs assez difficile, hein. Il y a des concepts, tu dis, ça n'existe pas en français.
C'est la difficulté du métier de traducteur. Oui.
Exactement.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons du langage PHP dans l'enfance de l'art, avec Stéphanie Trumptel et Franck Alimente. Alors PHP au départ c'est plus un langage d'inclusion de script dans la sortie. Est-ce qu'on peut enfin se passer du prologue inférieur point d'interrogation PHP dans le code source ?
Non, pourquoi ?
Bah pourquoi donc ? Est-ce qu'on se passe d'un prologue dans les JSP ? Non monsieur.
D'accord, donc on est obligé de
continuer. Est-ce qu'on se passe d'un prologue dans Twig ?
Mais surtout c'est une balise en fait, c'est pas un prologue.
Tu peux... J'ai cru comprendre qu'on pouvait directement, en ligne de commande, lancer PHP et faire exécuter un code source sans le prologue. Ce qui est utile notamment à cause des prologues Unix d'interpréteurs.
Oui, ok. Ouais,
je vous le dis parce que je l'ai fait pendant des années.
Comme
donc.
Oui, mais qui fait ça, quoi ?
Parce que c'est vraiment le cœur du truc, non ?
Non, d'accord, ok.
On peut faire plein de choses en PHP, hein, mais...
D'ailleurs, tu sais que tu as le short prologue ou le long prologue, inférieur point d'interrogation ou inférieur point d'interrogation PHP.
Oui, c'est vrai.
Et la best
practice, normalement, maintenant,
il est débriquetil.
Voilà, il est débriquetil, ouais.
Il recommande d'utiliser la version longue, justement.
Il ne marche plus, le cours.
Pour ne pas confondre avec un autre langage qui aurait eu l'idée stupide d'utiliser le même, c'est ça.
Mais comment ? Avec la notoriété de PHP ? Quelle outrecuidance !
PHP Sharp, par exemple.
Oui. Ou si PHP, non ?
Oui, aussi. J'ai comparé tout à l'heure PHP 3, PHP 4 au basique. Un outil pour développer très vite quelque chose sans trop se prendre la tête, mais qui devient un mur quand on commence à aller d'une manière un peu trop complexe.
Le Python.
Et là, il y a une blague qui m'échappe. C'est quoi cette blague de cycliste ?
Pas du tout.
Oh, mais non, Python, c'est connu. Je confirme, quand tu fais des trucs simples, c'est facile, effectivement. Et si tu essayes de faire des trucs un peu plus compliqués, ça devient horrible.
Oui, bon, d'accord. Ok, ça, c'est surtout à cause des exceptions. Mais d'un autre côté, donc, avant PHP 5, PHP 4, on arrivait à faire des choses qui étaient très bien. Il y a eu une tentative d'inclusion des classes, mais c'était vraiment pas ça, honnêtement. C'était une évolution. L'arrivée de PHP 5 a été une évolution.
5.3.
Bah, disons que la version 4, effectivement, il y avait les classes à moitié. C'était.
Le langage a évolué aussi avec les techniques de programmation et l'avancée qu'on a fait sur les langages. Donc, la vogue du langage objet, finalement, elle est arrivée après. Alors, la théorie des langages objets, effectivement, elle est très ancienne, mais le fait que tout le monde se mette à les utiliser, C++, typiquement, c'est arrivé...
C'est années 80, oui.
Voilà, donc, ouais, mais c'est arrivé, finalement, la popularisation des langages objets est arrivée, finalement, en même temps que PHP, et PHP a suivi un peu la tendance.
Ouais, il faut savoir aussi que c'est un langage qui est vraiment, dont les développements sont vraiment drivés par la communauté, c'est les choix de... Enfin, c'est d'ailleurs encore plus formalisé maintenant, n'importe qui peut déposer une RFC pour demander un changement dans le langage et c'est voté par le PHP Group qui valide ou pas. Et c'est vraiment, c'est pour ça qu'il est un peu composite, on va dire. Chacun a demandé un peu ce qu'il voulait.
Alors, je disais tout à l'heure que justement, des devs le considèrent comme un sous-langage bah, à cause de péché originel sur la conception de ce langage.
C'est qu'ils n'ont jamais fait du basique.
Ouais.
C'est ça en fait. Ils n'ont jamais fait de basique. Ils n'ont aucune référence de comparaison. Quoi. C'est un langage de merde.
Comment, c'est quoi le péché originel
Comment peut-on convaincre que justement PHP est devenu un langage qui est mature, qui est solide ?
Ils ont essayé au lieu de critiquer bêtement.
Il y a rien à convaincre. Il y a personne à convaincre. Je pense que le fait qu'il y ait 30 ou 40% des sites web ou 80% qui soient drivés par le PHP, c'est juste l'évidence, quoi. C'est un langage qui a fait ses preuves, qui est utilisé, qui est solide, performant, robuste. Voilà, quoi.
Stéphanie, tu parlais tout à l'heure de Zend. Quel est le rapport entre Zend et le langage PHP et son cœur?
Zend, c'est la société qui a été fondée par les deux premiers contributeurs, enfin plus Rasmus, à PHP, deux étudiants israéliens. Et donc ils ont monté cette boîte. En fait, c'était le Zend Engine qui est le premier interpréteur PHP à l'époque. Ils ont fondé la société Zend. Et après, ils ont développé un framework qui a été très populaire et quasiment plus utilisé.
Le framework Zend a quasiment disparu parce que c'est vrai qu'il proposait des outils qui étaient vraiment intéressants sur le plan du debug et tout ça.
Ouais, mais il s'est fait doubler complètement par Laravel et Symfony qui sont bien plus matures. Après, l'industrialisation du langage a été vraiment drivée par PHP Fig, qui est un regroupement des développeurs de framework majeurs qui se sont mis d'accord, c'est dans les années 2010, pour mettre en place des règles d'interopérabilité qui permettent, et qui ont permis grâce à Composer, qui est quand même vraiment fantastique,
oui,
il faut
ça,
bien le dire, Composer. Surtout quand on a testé autre chose,
au revoir NPM,
par exemple.
On n'a rien dit, nous.
Donc, qui permettent surtout de réutiliser les librairies ou les modules entre les différents frameworks, donc de construire son application à la demande, et très facilement. Je pense que la plupart des développeurs, on va dire, qui se mettent au PHP maintenant, ils savent pas qu'il faut inclure les scripts les uns dans les autres, sinon ça marche pas. L'autoloader qui est automatiquement créé par Composer, ça a tellement changé la façon de développer que c'est le langage, il a complètement changé de figure en quelques années.
Quelle est la priorité dans le développement du langage PHP ? WordPress donc représente la moitié des sites web actuellement. Est-ce lui qui drive les nouvelles versions ou plutôt les frameworks comme Symfony, Laravel, puisqu'on l'a cité
C'est difficile à dire.
Ouais, je pense pas qu'il
drive grand-chose. Parce que WordPress, quand même, dans la conception...
après, ces deux objectifs...
A mis du temps, c'est quand même, à devenir propre.
Ces deux objectifs différents. Symfony, c'est un framework qui a permis vraiment d'industrialiser PHP.
Ouais.
Bon, y a beaucoup de résonance avec Spring dans Java, mais c'est vrai.
Ah oui, c'est une
et
copie.
Fabien Potentier s'est inspiré de beaucoup de choses qui existent dans Java. Il a pris le meilleur et il a fait Symfony. Et alors que WordPress, finalement, c'est un produit qui est un peu monolithique, bon, qui a beaucoup d'extensions, de modules, tout ce que tu voudras, mais c'est voilà, l'objectif, c'est quand même de pouvoir permettre à des gens de faire de la publication personnelle. Mm-hmm. Au départ, c'est ça l'objectif. Alors que le framework Symfony, l'objectif, c'est de bâtir des applications dans des environnements distribués avec des objectifs de performance, de sécurité. Tout ce que tu peux demander à un système moderne. Donc, je sais pas.
Ce que fait Spring, Symfony le fait.
Ouais, tout à fait.
C'est exactement pareil.
Oui, oui. Des concepts comme l'injection de dépendance, c'est sûr que ça vient de Spring.
Symfony qui a été créé il y a une dizaine d'années par un Français, d'ailleurs, si je me trompe.
Par un Français, Fabien Potentier, oui. Mmh. Tout à fait. Ouais.
D'accord. Et justement, en termes d'évolution, qu'est-ce qu'a amené Symfony justement à la communauté PHP sur la manière de séparer justement le code et tout ça par rapport à d'autres frameworks ?
Des contributeurs au corps, non ?
Ah bah oui, ouais. Nicolas Grécas, il est contributeur au PHP Core. Ils sont évangélistes aussi pas mal. Surtout Fabien Potentier, c'était lui et d'autres qui ont créé PHP Fig. C'est eux qui ont imposé le rythme de développement de PHP, en fait, qui s'est aussi beaucoup professionnalisé, parce qu'avant, il y avait des releases un peu quand ils avaient le temps. Alors que maintenant, ils ont un planning, ils ont des LTS avec des temps de support qui sont déterminés à l'avance. C'est vraiment propre, quoi.
Bah, je suppose peut-être que Essencio a donné un peu de ressources à PHP.
Je pense,
PHP.
Ouais. Bah, déjà, ouais. Rien qu'en détachant Nicolas Grécas, qui doit y passer un temps fou.
Essencio, ouais. Qui est la boîte qui est derrière.
Oui, Essencio,
ouais, c'est ça. Ils sont pas payés par les boîtes, mais ils doivent les supporter d'une manière ou d'une autre. Parce qu'ils ont intérêt, eux, à ce que le langage se développe et à ce qu'il se développe vite.
Il y a aussi d'autres potentiels, il y a aussi d'autres projets, comme Blackfire, typiquement.
Il a fait tellement de choses, je sais pas comment il fait.
Blackfire, qui permet en fait d'analyser beaucoup de choses dynamiquement sur l'exécution du code, et qui est très lié finalement au cœur de PHP. Donc, typiquement, ça doit être win-win. Donc, on fournit un peu de ressources pour améliorer le process de développement du langage et de PHP. Et puis, on en profite, nous, pour notre business et pour la communauté aussi, parce qu'il y a une version gratuite qui est très facile à utiliser.
L'une des particularités quand même vis-à-vis de l'évolution, de la maturation de PHP, c'est quand on a vu des outils arriver comme PHP Unit, Xdebug et tout ça. C'est des trucs qui sont partis... PHP Unit, c'est une suite de tests unitaires, donc c'est plus indépendant, je vais dire, de...
C'est JUnit à la sauce PHP.
C'est JUnit en PHP, exactement. Pareil pour Mono.
C'est ce qui peut-être manquait pour faire amener justement développeurs qui venaient d'autres langages pour...
Ça date des années 2002, je crois. Enfin, c'est pas du tout récent.
À partir du moment où on a commencé à utiliser PHP dans des contextes un peu industriels, il a fallu des outils de test, il a fallu des outils de debug. Donc ces outils sont construits petit à petit sur des bases qui venaient de d'autres langages ou qui venaient de choses qui étaient déjà éprouvées. Bon, Xdebug, c'est vrai que c'est quand même indispensable, avoir un vrai débugger pour un langage. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez.
Plutôt que de balancer les erreurs dans le...
Voilà. Alors, moi, ce que je dis, ce que je pense, j'en suis persuadé intimement, c'est qu'un développeur qui n'a pas de débugger, il est aveugle. Il avance à l'aveugle dans son code. Et bon, s'il n'y avait pas Xdebug, je ne sais pas comment on ferait pour travailler avec PHP. Donc, il y aurait quelque chose d'autre qui l'aurait remplacé, sans doute. Mais,
oui. Ouais.
Oui, donc l'industrialisation du langage, c'est des outils, c'est des environnements de développement, tout ça, ça suit en fait. Et c'est tiré par Symfony, on peut le dire,
ouais.
Je pense,
ouais,
principalement,
ouais,
c'est sûr.
C'est CPU, l'émission Carré Petit Utile, et nous parlons du langage PHP dans l'enfance de l'art, avec Stéphanie Truntel et Franck Alimente. Alors on a parlé rapidement, on a fait des allusions à PHP 4 qui a tenté de faire du langage structuré et de l'objet, enfin à peu près.
Les prémices de l'objet.
Les prémices de l'objet. PHP 5 a vraiment fait de l'objet, des classes en bonne et due forme. Est-ce que PHP 5, finalement, c'est le vrai départ de l'industrialisation de ce langage ?
Oui, enfin, si tu considères que l'objet, c'est de l'industrialisation.
Oui, on peut le dire, je pense que c'est ce qui a permis de faire des choses un peu plus sophistiquées.
Il y a eu les namespaces surtout qui en retirent une énorme épine du pied de pas mal de choses d'ailleurs. Parce que sans ça, oui, effectivement.
Bâtir une grosse application monolithique sans namespace, c'était rock'n'roll. Ouais.
Tu pouvais pas utiliser de librairie parce qu'il y avait des collisions de noms, enfin, c'était infernal.
C'était infernal, oui. Je confirme. Parle un petit peu de l'erreur Pamayin Nekudo Taim. Pamayin,
j'y arrive pas. Elle-même.
Pamayin Nekudo. J'ai fait la pétante dans le micro.
L'opérateur de résolution de portée.
Pamayin Nekuto Naim. Nekuto Daim. Nekuto Taim. Pourquoi appeler l'opérateur double de points par son nom en hébreu au risque de créer une guerre nucléaire si le site des gardiens de la révolution iranienne a un code mal fichu avec un debug en prod ? Pour le plaisir d'exciter les théories du complot ?
Non, c'est historique.
C'est historique. On a parlé justement des deux créateurs de Zend.
Les deux créateurs étaient, enfin, ils le sont toujours d'ailleurs, israéliens, puisqu'ils sont toujours contributeurs. Et donc, il y a énormément de fonctions qui supportent l'hébreu en PHP d'ailleurs.
Oui, c'est vrai.
Qui viennent de là. Et puis, ils l'ont appelé comme ça parce que ça veut dire double deux points en hébreu.
En hébreu.
On a longtemps cherché. À l'époque, le poisson de Babel ne traduisait pas l'hébreu sur Altavista.
Mais comme c'est une erreur qui est assez courante.
Ouais, c'est cryptique, mais courant. Ouais.
Il y en a beaucoup qui se posent des questions.
Bon, après, on peut aussi excuser ces développeurs qui n'a pas laissé dans une application un message d'erreur
en français.
En français, oui. Du genre...
J'en connais qui
Echo Toto.
J'en connais qui mettent des noms de variables en latin, ça les fait marrer et ça évite de faire des collisions avec des fonctions système en anglais.
Oui, enfin, on le voit vite la collision quand même.
Ouais.
C'est d'une certaine élégance ces variables latines. Oui. En grec, c'est plus difficile, quoique maintenant que PHP supporte UTF-8, tu peux avoir une variable.
Dans le code source.
Dans laquelle il y a des caractères non latins.
Alors, qu'est-ce que ça doit être le code source qui vient d'Inde ou de Chine ? PHP 5.3 a amené à la fois les filters var pour nettoyer les entrées, les PDO pour optimiser les appels en base de données.
Et GoTo.
Alors ça, je m'en souvenais plus. Mais moi, je me souviens en tout cas de ces deux-là parce que ça a été... Mais... Quand c'est arrivé, je me suis précipité dessus. Ça a été
une révélation.
Surtout un nettoyage incroyable du code source. En termes de sécurité, ça a amené énormément. Rien que les filters var et les PDO, c'est monstrueux.
Bah, SQL Escape
Après,
String ne te suffisait plus.
Non, moi, j'avais ma petite fonction personnelle de filtrage. Hein. De toute façon, tout ce qui est extérieur au script, c'était filtré. Hein. Voilà, on fait confiance à personne.
J'en vois encore qui font des regex pour essayer de voir si c'est un email ou non. Donc. Alors que filter vars, mince.
Oui,
filter
ça marche
vars.
Bien.
T'embêtes pas, Coco.
Ouais, ou un fil de type email dans une forme Symfony, il n'y a plus de problème.
Oui, c'est vrai que maintenant, plus personne le fait, parce que les frameworks prennent en charge tellement bien, de façon transparente, avec de la magie noire.
Disons qu'il y a quand même beaucoup de... Oui, de la magie blanche, en l'occurrence. Ouais.
Non, magie noire, quand tu regardes le code source de certains frameworks...
Oui, Symfony, mais quand tu regardes celui de Symfony, c'est bien.
C'est l'un des plus propres que j'ai vu, honnêtement.
Oui.
Ça, je, c'est
mais
vrai
après,
que je suis
il y a beaucoup effectivement de fonctions PHP qui sont basées sur les fonctions magiques.
Oui, les fonctions magiques, mais il y a beaucoup de développeurs qui les connaissent pas, ces fonctions
non,
magiques.
Non, c'est bizarre. Hein.
Ouais. Ils sont bien pratiques pourtant.
Ils doivent être embêtés quand les frameworks meurent ou ne sont plus entretenus.
Ouais, enfin, si on regarde Spring ou Symfony, ouais. Ça va quoi. Je pense que c'est des frameworks qui vont vivre encore un petit moment.
Ouais,
quoi.
J'en vois encore qui codent pour du vieux SPIP ou des trucs comme ça.
Alors, SPIP, oui, SPIP, mais tout à fait, SPIP, c'est... On a une relation particulière chez Open Studio avec SPIP parce qu'il nous permet de gagner beaucoup, beaucoup d'argent.
Tu n'es pas obligé de dire du mal de ton employeur.
Non, mais pas du tout. Écoute, il n'y a jamais de mauvais outils, il n'y a que de mauvais ouvriers. Ça, c'est mon credo. Alors, il y a peut-être des outils qui sont moins performants que d'autres, mais si tu es un bon ouvrier, tu vas arriver à faire quelque chose de bien. Et avec SPIP, alors, je ne dis pas, oui, on. Alors, SPIP, c'est l'équivalent de PHP dans le monde des CMS. On dit, ah, ce brave SPIP, qu'est-ce que c'est de la merde. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça, SPIP, au départ. Déjà, d'un strict point de vue philosophique, SPIP, c'est beau. C'est.
Non, mais déjà, voilà, si tu es
du vrai logiciel libre.
Si tu es contre SPIP, tu es contre le monde. Tu es contre le monde diplomatique, donc tu es contre la gauche républicaine française.
Ouais, oui, non, mais bon, effectivement, ou d'autres sites d'ailleurs qui sont toujours écrits en SPIP.
Dont le FN à une époque, il y avait du SPIP, ça va beaucoup. Non, ils étaient en SPIP.
Là-bas, si j'y suis, en SPIP aussi,
oui,
tout à fait.
Oui, ouais. Tout à fait. Ouais.
Bon, non, mais tout ça pour dire qu'effectivement, SPIP est écrit en PHP, il est écrit en PHP monolithique, c'est pas du PHP objet, on touche les limites. Et c'est pour ça qu'à Open Studio, on cherche des développeurs pour faire la nouvelle génération de notre plateforme basée sur SPIP. Ouais, tout
d'accord,
à fait.
Donc tu fais un appel du pied là, si vous y connaissez en SPIP.
Oui, voilà. Okay. Non, pas du tout. Alors si vous y connaissez pas en SPIP, vous pouvez venir. Des devs SPIP, on en a.
Ouais,
ouais, tout à fait. Mais,
d'accord, ok. Puisqu'on venait dans le CRAD, on va y rester. Oui. Pourquoi
mais c'est pas CRAD SPIP, que ce soit dit.
Pourquoi n'y a-t-il jamais eu de PHP 6? Est-ce que cette version a été allée un pont trop loin?
Bah, ils n'ont pas réussi, surtout. C'était
trop ambitieux.
Trop ambitieux, ouais. Ouais. Ils voulaient intégrer l'Unicode, mais une version d'Unicode qui, finalement, n'a pas été standardisée. Je crois que c'était un truc bizarre.
Oui, parce qu'il y avait quand même un petit peu d'Unicode qui était faisable en dehors de PHP.
Et puis, ça n'avait pas d'intérêt vraiment en soi non plus, particulier, vu qu'on s'en est très, très bien passé jusqu'à présent.
On faisait du UTF-8 en code, voilà. UTF-8 des codes.
Je m'en souviens,
oui.
Oh là.
Mais oui.
Et donc, ça a surtout failli tuer le langage parce que ça a duré
beaucoup d'attente,
pendant 4 ou 5 ans avant qu'ils abandonnent officiellement.
Parce que je crois qu'ils ont lancé le développement en 2006.
Il me semble, oui.
Ils ont abandonné définitivement en 2015, donc ça faisait quasiment 9 ans.
Ouais.
Et ce qu'il y a de fou, c'est que la prise en charge correcte de Unicode... Ce qui posait problème en fait dans le projet, en 2015, il y a plein d'autres langages qui encore à l'époque le géraient pas complètement ou le géraient très mal. Moi, j'ai des souvenirs émus du Unicode de Java ou d'autres bricolages.
Ça a bien marché tout de suite dans Java. UTF-8, ça a toujours bien marché dans Java. Hein.
C'est pas de l'UTF-8, c'est du MUTF-8. Tu peux pas aller au-delà d'un certain code point. Ce qui
écoute, j'ai commencé en Java 1.1.8. Enfin non, j'ai commencé avant.
Les régisseurs de Corba.
1.1.3, c'était la première version un peu utilisable de manière industrielle. 1.1.8, vraiment utilisable. Et ça supportait déjà Unicode quand même.
Mais oui, en soi, c'est vraiment Unicode qui posait problème.
Oui, parce
que
c'est historique.
Ouais, je sais pas, j'étais pas dans la core team à l'époque. Mais ils ont pas réussi effectivement, et ça a dû vraiment poser problème. Et au final, ils ont fait les autres modifications, ils les ont commitées dans une version 5.6. Pour pas ralentir plus
la
que
dernière
ça.
Des 5.
Mais pendant ce temps-là, il y a Facebook qui a sorti son engine, qui a développé son langage parce qu'ils n'en pouvaient plus d'attendre, je pense.
Ouais, on va en parler justement dans la deuxième émission la semaine prochaine.
Mais vu qu'il n'y a eu pas de développement sur le langage, pas de version majeure, ça a pris beaucoup de retard par rapport aux autres langages, jusqu'à la version PHP 7.
Ouais, parce que ça, c'est quand même une réussite et une promesse tenue qui est assez phénoménale, quoi.
Oui.
30% de performance, d'amélioration des performances, juste
En changeant de version.
En changeant de version. Et en reprenant un tout petit peu les requêtes, requêtes à la base de données. Ouais, tout à fait.
Oui, aussi. Du coup, PHP 5, lancé en 2004, est resté la version principale jusqu'en 2015. Est-ce que c'est vraiment ça qui a donné une image vieillissante, qui fait que des gens se sont tournés vers Ruby, vers Node.js, vers Go
Ceux qui méprisent savent même pas en quelle version est PHP en ce moment.
Non, ils n'en ont rien à faire. Il y en a qui ne savent même pas que c'est en objet. Quoi. Donc, c'est qu'ils ont... on me l'a sorti il n'y a pas longtemps. Hein. Ah, il y a de l'objet en PHP. Oui.
Ils pensent que Symfony, c'est monolithique, je pense.
Oui, aussi. Ouais. Voilà. Donc, c'est vraiment...
du fantasme.
Ou est-ce qu'au contraire, finalement, le fait que PHP 5 soit resté un certain temps, ça a permis de consolider une communauté, stabiliser la communauté, les développements qui tournaient dessus, et de permettre justement des entreprises de se dire ça va, c'est relativement fiable si ça reste longtemps.
C'est peut-être un problème en fait. Il y en a qui ont tendance à s'encrouter, je dirais plutôt. Mais c'est sûr que changer de version de majeure d'un langage, ça a toujours un coût pour les entreprises, qu'ils y vont à reculons quand vraiment ils ont le dos au mur pour certains.
Alors, on voit que pour passer Python 2.7 à 3, les distribs Linux, 10 ans après, n'y sont pas encore.
Oui, tout à fait. Ce qui fait qu'il y a 50 versions de Python sur la même machine. Ça a été mal et bien, on va dire. Mais...
C'était comme c'était. Les gens qui utilisaient PHP ont utilisé PHP 5.6 jusqu'au bout.
Oui, même encore.
Y en a qui utilisent encore PHP 5.6 parce qu'ils ne veulent pas faire l'effort de passer en PHP 7, parce qu'il y a un effort à faire.
Oui.
Un coût qui ne peut pas être absorbé par tous les gens qui... Typiquement, des gens qui ont des boutiques en ligne, qui sont sur des serveurs anciens, qui n'ont pas de compétences techniques. Ils sont un peu coincés, quoi. C'est clair, ils vont pas pouvoir évoluer vers PHP 7.
Mais comme ça remplit dans leurs besoins actuellement, ils n'ont pas non plus un impératif à passer.
Le truc, c'est tant que ça marche, essaye pas de réparer. C'est ça le motto de ces gens-là, quoi. Ils ont raison, dans un sens.
C'est vrai que le code source d'un code en PHP 3 peut encore tourner en PHP 7, plus ou moins.
Pas sûr. Non, je pense pas.
Non, je pense pas.
Et c'est quoi qui a été abandonné, donc, du coup, avec l'arrivée de PHP 7 qui empêche des gens d'y migrer?
Principalement, toutes les fonctions préfixées par MySQL underscore quelque chose.
MySQL Connect?
Ou MySQL tout ce que tu voudras. Voilà. Disons que cette partie-là a été supprimée au profit de PDO. Voilà.
Ce qui est bien.
Ce qui est plutôt une bonne chose. Ouais. Ouais,
mais il y a aussi 2-3 fonctions qui ont un comportement inversé, donc il y a quelques breaking changes. Mais bon, sur une grosse base de code, ça peut poser problème. Mais il y a des outils d'analyse statique très bien faits
qui permettent de s'affranchir de ce genre de choses. Mais principalement, c'est la grosse difficulté, c'est il y a des fonctions dépréciées qui ont disparu. Bah, c'est normal, au bout d'un moment. Voilà, ça fait des années qu'on vous avertit, les gars. Maintenant, il va falloir faire quelque chose. Bon. Et après, donc, principalement, ce qui est la grosse difficulté, c'était MySQL underscore, toute cette série de fonctions. Bon, après, c'est facile de trouver des wrappers qui vont les mapper sur des appels PDO. Et donc, on peut brancher sur un vieux code PHP. Un package qui va réimplémenter dans l'espace de nom global les MySQL underscore, et c'est reparti comme en 40, mis à part quelques petites bricoles à régler dans le je crois que c'est EREG ou des choses comme ça qui ont été
parce qu'il y avait deux moteurs de regex, je crois trois même au bout
PREG, EREG, on en a viré un et on a gardé P, donc on a viré E, on a gardé P.
Oui, c'est ça.
Et donc du coup ça permettait quand même aux gens qui ont des vieux systèmes basés sur PHP 5 de continuer à utiliser leur système à moindre coût avec quelques bidouilles à droite à gauche. Mais c'est beau, c'est ce que permet de faire ce langage-là, c'est pas mal.
Et c'est ce que l'on va parler la semaine prochaine, donc dans la suite de cette histoire de PHP sur ses 25 ans. Franck Aliment, merci beaucoup. Stéphanie Treptel, merci beaucoup.